France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La marche arrière sur les 80 km/h, un nouveau département, un 52e, remonte la limite de vitesse sur les départementales depuis la nuit dernière. C'est l'heure, nous y serons, quand 9 CRS se sont jugés depuis ce matin pour avoir frappé des manifestants gilets jaunes. C'était à Paris il y a plus de 7 ans. À suivre encore, l'enquête pour harcèlement scolaire contre la jeune Camélia, classée sans suite à Meaux. L'adolescente s'était suicidée le mois dernier, il n'y a pas de preuves, dit le procureur, nous l'écouterons. Un guide pour les musulmans de France qui s'interroge sur les lois de la République, guide rédigé par la Grande Mosquée de Paris, nous allons le feuilleter. Nous parlerons également de la situation à Cuba, dégradation très rapide ces derniers jours, pénurie à tous les étages, notre invité pour comprendre. Et puis des soldats africains, bonjour Virginie Pironon.
Bonjour.
Enrôlés par l'armée russe.
Une chair à canon bon marché pour sa guerre en Ukraine, la Russie recrute en effet désormais en Afrique.
A tout de suite pour vos explications. À partir de 13h30, croustilles, tacos, burgers, le boom de la junk food, l'obésité et les jeunes, énorme enjeu de santé publique. Comment lutter? 01 45 24 7000 pour vos témoignages. 13h45, notre feuilleton, la route des municipales passe par le Mâconnais avec cette histoire de pont.
Le tribunal administratif de Lyon a suspendu l'arrêté préfectoral qui avait autorisé les travaux. Travaux qui avaient commencé d'ailleurs. Alors là, c'était vraiment un coup de massue.
Notre reporter Laurence Perron a sillonné la région à vélo. 13h50, c'est la France. Il était fossoyeur. Il a inspiré le personnage de Nono dans le best-seller « Changer l'eau des fleurs ». Norbert Jolivet vient de s'éteindre à Guignon, portrait signé Cécilia Arbona. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la chanteuse Mag, demande Lady Gaga.
Moi je crois beaucoup au gris-gris en général, mais cette chanson elle s'est un peu imposée par son message. Moi c'est une chanson qui me donne de la force.
Au micro de Julien Baldacchino, voilà vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
L'actualité de ce lundi nous ramène donc en 2018. 1er juillet 2018, le Premier ministre Édouard Philippe décide de la baisse de la vitesse sur les routes départementales à 80 km/h. La mesure sera l'un des carburants du mouvement des Gilets jaunes qui éclate à l'automne. On va y venir dans un instant. Eh bien, 8 ans plus tard, 52 départements ont décidé de repasser au 90 km/h. Dernière en date cette nuit, le département de l'Eure, après avoir mené une étude sur les accidents, baisse du nombre de morts mais hausse des blessés. Alors qu'en pensent les automobilistes que vous avez rencontrés, Laurent Philippot ?
Dans leur très grande majorité, ils approuvent, comme Nathalie.
Ah mais c'est très bien. Ce 80, on se traîne. Les camions sont à la même vitesse que nous, donc on peut pas les doubler. Non, c'est très bien. Ah non. On attendait ça avec impatience. Hein.
En train de finir son sandwich à côté de sa grosse berline allemande, cet automobiliste salue l'initiative.
Ouais, c'est mieux quand on roule, c'est mieux.
Vous roulez beaucoup ?
Ouais, c'est vrai.
Et à la bonne vitesse ?
Ça dépend. Pas tout le temps.
Le risque, c'est que le 90 se transforme en 95, 100 ou voire plus sur le compteur. Salim, lui, pense que la route sera moins stressante.
Avec les nouvelles voitures maintenant, des voitures puissantes, on ne peut pas rouler à 80 pendant, je sais pas moi, 45, 50 minutes. Déjà, pour la voiture, c'est pas bon. De stress, en plus les bouchons, en plus les aires de pointe. Donc, à mon avis, c'est une bonne idée.
L'heure à 90...
J'étais pas au courant.
Quoi qu'il en soit, Anaïs est contre.
Moi, j'étais contente avec 80. Si la route est prenable à 80, je vois pas l'intérêt de réaugmenter la limitation de vitesse. Et pour tous les gens qui roulent avec une voiture thermique, ça va faire plus de pollution. Et pour tous les asthmatiques comme moi, c'est pas cool. Tout ça dommage, voilà. En plus, il y a certaines départementales que je prends qui sont dans un état lamentable avec des trous de nid de poule partout. Donc à 90, ça va être encore plus dangereux. On va péter encore plus de pneus, je sais pas.
De nouveaux panneaux seront installés d'ici à mercredi dans l'heure. Coût pour la collectivité, 200 000 euros.
Reportage ici Normandie. Ce qui nous amène donc à ce procès qui s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Paris. 9 policiers, 9 CRS jugés pour avoir matraqué des manifestants gilets jaunes dans un Burger King non loin de l'Arc de Triomphe, décembre 2018. Les vidéos des faits avaient été publiées. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez ce procès pour Inter. Les CRS ce matin, Jean-Philippe, sont arrivés en tenue au tribunal.
Oui, les CRS qui comparaissent sur leur temps de travail, précise leur avocat, sont donc arrivés en tenue, écussons, galons et fourragères exhibés, mais le président les a renvoyés au vestiaire, estimant à la demande des avocats des manifestants qu'ils devaient comparaître en civil, c'est-à-dire démis de tout insigne, pour la sérénité des débats. Alors derrière eux, dans la salle, se sont installés une cinquantaine d'autres policiers en soutien. Tous sont restés impassibles quand le tribunal a commencé la projection de plusieurs vidéos prises à l'intérieur du Burger King ce soir-là. On y voit d'un côté la présence de manifestants calmes, venus uniquement pour échapper un peu au nuage de gaz lacrymogène à l'extérieur. Et puis, soudain, cette irruption de CRS qui frappe à tout va. Leur chef leur avait dit dans l'oreillette « Allez-y, triquez-moi tout ça, faites-vous plaisir ». Ainsi, le président va décrire que Nathan recevra 27 coups de matraque de 6 policiers différents alors qu'il était allongé au sol.
D'un mot, Jean-Philippe, je le disais, un procès plus de 7 ans après les faits. Est-ce que c'est fréquent ? Est-ce que ce sont les délais de la justice aujourd'hui ?
Alors non, mais c'est hélas de plus en plus fréquent et a fortiori dans les dossiers sensibles. Le président d'ailleurs, président de cette 10e chambre, Thierry Denard, l'a évoqué ce matin en ouvrant le procès. 7 ans, c'est pas un bon signal, tant pour les prévenus que pour les parties civiles, a-t-il regretté.
Merci Jean-Philippe Deniau avec les moyens techniques de Selim Guéribi. En Seine-et-Marne, plusieurs enquêtes avaient été ouvertes après le suicide de la jeune Camélia, 17 ans, c'était le 13 janvier dernier. Sa mort avait suscité une vive émotion ainsi que la mobilisation de ses camarades. Car selon sa famille, elle subissait du harcèlement au lycée et l'élève avait même mis en cause l'attitude du proviseur de l'établissement dans cette affaire. Eh bien ce matin, au contraire, le procureur de Meaux affirme ne pas avoir la preuve que Camélia était harcelée. Bonjour Manon Lombard-Brunel.
Bonjour.
Vous avez suivi sa conférence de presse. Le procureur annonce que l'enquête est classée sans suite.
Oui, car selon lui, aucun élément ne permet donc de caractériser l'effet de harcèlement scolaire. Conclusion rendue ce matin après quasiment un mois d'enquête.
Si le constat de la souffrance de cette mineure s'impose à nous et devrait amener au respect et à une certaine introspection, la vérité oblige à dire que les investigations menées à bien ne permettent pas d'en comprendre les ressorts ni l'origine et qu'elles ne rapportent pas davantage la preuve de la commission répétée d'actes et ou de comportements pouvant caractériser un délit de harcèlement commis à son encontre.
Alors, dans ce dossier, 12 enquêteurs du commissariat de Torcy, dont 4 ont été entièrement dédiés à cette affaire. Il y a eu 59 auditions témoins. 3 personnes de 17 à 18 ans ont, elles, été entendues en audition libre. Ces 3 personnes, ce sont des élèves du lycée avec lesquels Camélia avait eu des tensions autour d'une conversation sur Snapchat. Tension, c'est le terme utilisé par le procureur de la République de Meaux. Cette conversation avait attisé quelques tensions entre les adolescents.
Période de tension entre Camélia et plusieurs de ses camarades de classe et de lycée, se serait fait jour entre la fin du mois de novembre 2025 et le début du mois de décembre 2025, lorsque les dites camarades avaient appris que Camélia avait réalisé une fausse conversation sur l'application Snapchat en empruntant les identités de 3 de ses camarades, un garçon et 2 filles, et en simulant entre eux une conversation.
Alors, des camarades qui avaient demandé des explications autour de cette conversation à Camélia, explications qui n'avaient pas donné lieu à des insultes ni à des menaces du côté du corps enseignant et du proviseur du lycée. Les éléments de l'enquête ne permettent, selon le procureur, pas de mettre à jour des manquements.
Manon Lombard-Brunel pour ces informations en direct de Meaux avec Florent Layani. Des nouvelles de l'enseignante poignardée la semaine dernière par l'un de ses élèves de 14 ans en pleine classe. C'était à Sanary-sur-Mer dans le Var. Son état de santé s'améliore un petit peu, a dit ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Cette enseignante est toujours hospitalisée. Emmanuel Macron avait pesé la semaine dernière pour que Jack Lang démissionne de la présidence de l'Institut du Monde Arabe. Jack Lang, dont les liens d'intérêt avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein avaient été révélés. Mais le président de la République ne s'était pas exprimé sur la publication de ces millions de documents qui mettent en cause plusieurs personnalités à travers le monde. Il l'a fait ce matin dans le cadre d'une visite au Salon du Vin, le Wine Paris. Bonjour Marie Monet.
Bonjour.
Vous êtes sur place Marie. Le déballage dans cette affaire est tel que le président de la République juge bon de prendre la parole.
Oui, le président ne s'était pas encore exprimé sur cette affaire dont l'on découvre jour après jour des ramifications jusqu'en Europe. Je pense d'abord aux victimes, a-t-il dit ce matin, et la justice doit désormais faire son travail dans le calme.
C'est une affaire, mais quand il y a une affaire, il faut que la justice fasse son travail parce qu'il y a des victimes. Il y a une élucidation de la vérité qui suppose que des gens fassent un travail de manière méthodique. Après, je vois que derrière, ça alimente aussi beaucoup les complotismes et tout le reste. Donc c'est un vrai travail de journaliste qu'il faut faire sur la base de ces informations qui ont été révélées. Ouais.
élucider la vérité, faire un travail méthodique, dit-il, car en effet, dans les 3 millions d'archives diffusées de façon brute par l'administration américaine, le nom de certaines personnalités françaises apparaissent, mais certaines n'ont rien à voir avec l'affaire. Celui d'Emmanuel Macron lui-même est cité plus de 200 fois, simplement parce que Jeffrey Epstein commentait l'actualité française dans ses messages. Interrogé aussi ce matin sur la démission de Jack Lang de l'Institut du Monde Arabe, le président français commente à peine.
Il a pris sa décision. Nous avons pris acte de celle-ci et voilà.
Pourtant, l'Élysée et le Quai d'Orsay ont pesé pour obtenir son départ quand Jack Lang affirmait il y a quelques jours encore être blanc comme neige. Le président est-il désormais inquiet de voir d'autres personnalités françaises mises en cause ? C'est d'abord une affaire américaine, balait-il ce matin. C'est à la justice américaine de faire son travail.
Merci Marie Mollet, avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. Lui a été définitivement condamné pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. L'animateur de la chaîne CNews, Jean-Marc Morandini, a été maintenu à son poste par la direction du groupe Canal+. Et ce matin, l'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy, lors d'une interview codiffusée sur CNews et sur Europe 1, lui a adressé ce message.
Je voudrais saisir cette occasion, si vous me le permettez, pour dire un mot ce matin à quelqu'un que je ne connais pas. Je saisis cette occasion pour lui parler. C'est Jean-Marc Morandini. Et je voudrais lui dire simplement, monsieur Morandini, je n'ai rien contre vous. Mais la seule chose que j'ai à vous dire, c'est partez, démissionnez. Parce que les Français ont besoin de retrouver confiance dans leurs institutions, ils ont aussi besoin de retrouver confiance dans leurs médias. Vous avez été condamné et comme toutes les personnes qui sont passées par là, vous avez certainement le droit de continuer d'écrire votre vie. Mais cela n'implique pas pour autant qu'il faille imposer en particulier aux victimes et à tous ceux qui dans notre pays ont été victimes d'atteintes sexuelles quand ils étaient mineurs, leur imposer le sentiment que vous êtes parfaitement indifférent à la souffrance que vous avez causée. Partez maintenant.
François-Xavier Bellamy au micro de la journaliste Sonia Mabrouk qui, elle, a démissionné de son émission quotidienne sur CNews en raison du maintien à l'antenne de Jean-Marc Morandini. C'est un guide qui s'adresse donc aux millions de Français de confession musulmane. Comment concilier leur religion, le port du voile pour les femmes, le blasphème considéré comme une offense par exemple, avec les lois de la République, les deux on le sait, entrent parfois en contradiction. L'ouvrage que publiera demain la Grande Mosquée de Paris s'intitule « Musulmans en Occident ». Bonjour Faouzi Trita.
Bonjour.
Comment et pourquoi a-t-il été rédigé ?
En fait, il a été rédigé pour répondre à un enjeu pour les millions de musulmans de France. C'est en fait de concilier une foi qui a plus de 1000 ans aux règles de la République et donc de la laïcité et de lutter contre les discours haineux et communautaires. Chemseddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, voit très grand.
Nous sommes prêts à débattre même des questions qui fâchent pour faire date de notre citoyenneté, pour participer à je dirais, réparer le tissu social qui, aujourd'hui, est extrêmement fracturé.
Un ouvrage qui évoque 200 notions, le voile, le jeûne au travail ou au sport, le blasphème, le mariage religieux ou encore la musique. Des imams ont été sollicités et des personnalités ont été auditionnées pour leur expérience. Nicolas Sarkozy, François Hollande, l'ex-sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, des élus locaux et beaucoup de chercheurs.
Alors précisément, quelles solutions apporte cet ouvrage ? Par exemple, sur les cas de figure dont je parlais un peu plus tôt, le voile et le blasphème.
Alors, concernant le voile, on le sait, c'est un sujet sensible. L'ouvrage indique clairement que si l'on n'a pas d'autre solution, le retirer temporairement, le temps passé au travail ou à l'école est autorisé. Et sur le blasphème, le recteur de la Grande Mosquée de Paris est très clair, la limite, c'est la loi.
Le blasphème, on peut blasphémer sans aucun problème. À travers donc, cette question du blasphème, nous pouvons aujourd'hui ne pas aimer l'islam, nous pouvons même dire des choses sur l'islam. L'essentiel, c'est ne pas tomber sous le coup de la loi sur l'incitation à la haine d'une communauté parce que musulmane.
Et finalement, la seule limite de cet ouvrage peut être le prix et la taille, 900 pages et 69 euros.
Merci Faouzi Trita pour ces explications.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'était il y a encore quelques années l'une des destinations touristiques majeures dans les Caraïbes. Cuba est désormais plongée dans une crise profonde. Le tourisme s'est effondré l'an dernier et la vie quotidienne s'est dégradée. Des coupures de courant de plus en plus longues, des pénuries d'essence notamment de plus en plus nombreuses, à tel point que les autorités ont annoncé ce matin aux compagnies aériennes qu'elles ne pouvaient plus les ravitailler en kérosène. Et dans le même temps, le Mexique, lui, annonce l'envoi de 2 bateaux d'aide humanitaire vers Cuba. Bonjour Jean-Jacques Kourlianski.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes à la Fondation Jean Jaurès. Cuba vit-il l'une de ses plus graves crises ?
Oui, enfin, Cuba a vécu d'autres crises importantes. La plus ancienne, c'est celle de après la chute du mur de Berlin, quand l'Union soviétique a disparu et que la Russie a arrêté d'honorer les livraisons de pétrole à des prix avantageux qu'elle effectuait avec Cuba jusque-là. Donc ce moment-là, c'est appelé la période spéciale, a été très dur pour Cuba, pour les Cubains. Et le gouvernement actuel, le président Díaz-Canel, a évoqué effectivement que la situation actuelle rappelait celle qui avait été la période spéciale après la chute de l'Union soviétique et la suspension de l'aide pétrolière que livrait Moscou à La Havane.
Aujourd'hui, c'est le Venezuela qui ne vend plus de pétrole à Cuba depuis la capture de son président Nicolas Maduro par les Américains. C'est ça qui a été le point de bascule, Jean-Jacques Kurliansky ?
Alors, la bascule, c'est surtout la déclaration de Donald Trump d'annoncer des sanctions à tout pays livrant du pétrole à Cuba, des sanctions commerciales. Donc le problème du Venezuela ayant été réglé, comme vous le savez, il restait comme pays livrant du pétrole à Cuba le Mexique. Environ 17 à 18 000 barils jour. Et le Venezuela, c'était autour de 30 000, 40 000. Le Mexique ne livre plus, a décidé la société pétrolière mexicaine, en accord avec les autorités, bien qu'il n'y ait pas eu de déclaration publique à ce sujet, a décidé de suspendre les livraisons de pétrole. L'aide humanitaire à laquelle vous faisiez allusion n'est pas une aide en pétrole, c'est une aide de caractère humanitaire, des livraisons d'aliments, de médicaments et autres. La présidente mexicaine a expliqué effectivement que le Mexique allait faire ce qu'il pourrait à l'égard de Cuba en matière humanitaire, mais qu'il le ferait dans la limite de ce qu'il lui est possible de faire. Le Mexique est effectivement menacé régulièrement par le président des États-Unis pour diverses raisons, trafic de stupéfiants, contrôle de sa frontière, du passage des migrants, problèmes commerciaux,
Ça veut dire, Jean-Jacques Kurliansky, pardonnez-moi, mais ça veut dire quasiment plus de livraison de pétrole. J'ai dit que la manne liée au tourisme s'était effondrée. Est-ce que ça peut conduire à la chute du régime, au renversement du président cubain Miguel Díaz-Canel ? Vous citiez son nom, c'est lui qui avait succédé à Raúl Castro, le frère de Fidel. Est-ce que ça peut aller jusque-là ?
Difficilement. Le régime tient bien. Le régime s'appuie sur une police, des forces armées. Ce que l'on a constaté chaque fois qu'il y avait des situations économiques difficiles, c'est qu'il y avait des flux de migrants. Alors, ils sont d'autant plus faciles aujourd'hui que les Cubains, depuis Raúl Castro, ont la possibilité de sortir du pays sans problème. Enfin, qui n'était pas le cas auparavant. Donc, il est possible qu'il y ait, on l'a constaté d'ailleurs ces dernières années, plusieurs dizaines de milliers ou davantage de Cubains qui fuient pour aller en direction des États-Unis, d'autres pays d'Amérique latine. C'est ce qui s'était passé au Venezuela au moment, dans la première phase de sanctions des États-Unis.
Merci Jean-Jacques Kurliansky d'avoir été avec nous. Merci pour ces explications autour de la situation à Cuba depuis quelques jours, qui s'est donc très rapidement dégradée. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes à la Fondation Jean Jaurès. Vous faisiez référence aux migrations dans les Caraïbes, naufrage de migrants au large des côtes libyennes. 53 personnes sont mortes ou portées disparues, nous dit l'Organisation internationale pour les migrations, après le naufrage d'une embarcation qui transportait 55 migrants. Nous parlions de la Russie au sujet de Cuba. La Russie qui, dans sa guerre contre l'Ukraine, très meurtrière, on le sait, pour son armée, a besoin de bras, a besoin sans cesse de recruter de nouveaux soldats. On savait qu'elle le faisait à l'étranger. Des combattants de Corée du Nord, d'Inde ou encore du Népal avaient été soit tués, soit capturés par les Ukrainiens. Mais on apprend donc maintenant que des soldats venus d'Afrique sont également enrôlés. 200 ressortissants kényans enrôlés selon le pouvoir de Nairobi. Virginie Pironon, on vous retrouve. Est-ce qu'on sait comment procèdent les Russes dans ce recrutement?
Alors, des témoignages recueillis notamment par l'AFP commencent à émerger, notamment du Kenya, où sévissent des agences de recrutement. Agences qui promettent à de jeunes kényans dans la vingtaine, la trentaine, un travail 10 à 20 fois mieux payé que chez eux, comme vendeurs, agents de sécurité ou sportifs de haut niveau. Mais une fois sur place, c'est un cauchemar. Certains sont obligés de signer un contrat directement avec l'armée, contrat auquel ils ne comprennent rien qu'à rédiger en cyrillique. D'autres sont tout simplement trompés, pensant signer leur contrat de travail. Le phénomène parmi les pays africains a pris de l'ampleur depuis l'année dernière. Ouganda, Nigeria, Cameroun, Égypte ou encore Afrique du Sud. Ce qui témoigne d'un changement de stratégie de la part de Moscou qui, au début du conflit, rappelez-vous, il y a 4 ans, envoyait des soldats issus de ces minorités, Bouriates, Tchouvaches, avant de se tourner vers l'Asie centrale ou, vous le disiez, la Corée du Nord, l'Inde ou encore le Népal. Selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, des citoyens issus de 36 pays africains combattent aujourd'hui en Ukraine. Plus de 1400 ont été identifiés, mais le chiffre réel pourrait être bien plus élevé.
Virginie Pironon à Hong Kong, 20 ans de prison pour Jimmy Lai, 78 ans. Sa peine est tombée ce matin. Il était la voix de la démocratie à Hong Kong, ancien mania de la presse et soutien des manifestations massives de 2019-2020 contre le nouveau pouvoir chinois. Hong Kong, possession britannique jusqu'à sa rétrocession à Pékin en 1997. C'est donc de Londres que sont venues les réactions les plus fortes ce matin, Laura Calmus.
Oui, avec la ministre des Affaires étrangères Yvette Cooper qui dénonce une poursuite politiquement motivée. Elle parle d'une peine qui équivaut à une condamnation à mort et promet d'intervenir davantage et sans délai auprès des autorités chinoises. Le gouvernement britannique affirme aussi se tenir aux côtés du peuple de Hong Kong. À Downing Street, on rappelle que le Premier ministre a personnellement soulevé le cas de Jimmy Lai lors de sa visite récente à Pékin, mais les pressions diplomatiques n'ont pour l'instant rien changé. Sur Sky News, le fils de Jimmy Lai, Sébastien Lai, se dit profondément inquiet.
Comment peut-on avoir des relations plus étroites? Comment peut-on normaliser nos relations alors qu'un citoyen britannique de 78 ans, dont le seul crime est d'avoir défendu la liberté et la démocratie, d'avoir défendu ses collègues et le peuple de Hong Kong, est toujours en prison à Hong Kong?
Et dans l'opposition, le ton se durcit. La chef des conservateurs, Kemi Badenoch, accuse Keir Starmer de faiblesse face à la Chine. Et pour les ONG basées au Royaume-Uni, cette condamnation dépasse largement le cas de Jimmy Lai. Elle y voit un signal très sombre pour la liberté de la presse à Hong Kong.
Correspondance de Laura Calmus à Londres pour Inter. La Chine, il en est à nouveau question aujourd'hui dans l'actualité économique avec cette réflexion en France du haut commissaire au plan qui veut contrecarrer l'arrivée des produits chinois sur le marché français sous peine de voir l'industrie française disparaître. Elle est, dit ce matin Clément Beaune, en danger de mort. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour. Bonjour Jérôme.
Ce rapport détaille d'abord, on va venir aux mesures proposées dans un instant, mais d'abord ce rapport détaille la déferlante de produits chinois à l'œuvre en ce moment sur le marché français.
Oui, on ne pensait pas que c'était d'une telle ampleur avec autant de pays européens touchés, vient de dire l'un des auteurs de ce rapport, car on n'est plus sur un déclassement progressif des entreprises européennes, mais bien sur leur éviction à venir de certains marchés. Les Chinois fabriquent aussi bien, voire mieux, mais à des coûts bien inférieurs, 30 à 40%, partout donc ils gagnent des parts de marché au détriment des exportations européennes, un symbole, l'automobile. 70% des exportations françaises sont sous grosse concurrence chinoise, pression aussi sur les batteries, les plastiques, la chimie, des secteurs spécifiques européens qui n'ont donc plus de secret pour les Chinois, qui s'imposent aussi au sein même de l'Union européenne. Exemple là, les panneaux solaires. Il y a 25 ans, les Européens dominaient. Ils ont quasiment disparu aujourd'hui. Des pans entiers de l'industrie européenne sont donc menacés, dit le Haut-Commissariat. L'Allemagne en tête, la Suède, la Slovaquie, puis la France.
Et la solution passerait donc, Mathilde, par des droits de douane massifs.
Oui, il faut frapper plus fort, dit le rapport. Certes, l'Europe s'est réveillée, a lancé son arsenal de défense commerciale, mesures de sauvegarde, droits anti-dumping, relance aussi de la compétitivité et monter en gamme, mais c'est trop long et ça ne suffit pas. Il faut donc, plaide le haut commissaire au plan, imposer des droits de douane progressifs à 30% et déprécier l'euro par rapport au yuan, le taux de change nous étant défavorable.
Mathilde Dehimy. Au mois de janvier, il a plu 2 jours sur 3 en Bretagne, nous dit Météo France, dont son bulletin mensuel. Alors, ça n'est pas vrai que pour la Bretagne, mais là-bas, les conséquences sont déjà constatables. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Dans plusieurs points du littoral, le sentier côtier, voire même des routes, se sont effondrés ces derniers jours.
Oui, routes touristiques, par exemple, dans le Finistère, à Pouldreuzic, détruites, prises entre un étang qui déborde et des vagues qui déferlent. Elle ne sera pas reconstruite. Il y a aussi cette falaise, victime de l'érosion sur la presqu'île de Crozon, et ce mythique sentier côtier, le GR34, souvent endommagé. Et cela ne date pas de ces derniers jours, oui. Comme l'observe la présidente du comité randonnée des Côtes d'Armor, Béatrice Magdeleine Aubry.
Hier, moi, j'étais à Saint-Quay-Portrieux avec la force des vagues. Tout ce qui est terrain meuble, même s'il y a la falaise derrière, ça s'affaisse. Donc, ça remet en cause les circuits aujourd'hui. Pratiquement toutes les semaines, que ce soit par des randonneurs, que ce soit par des associations locales, que ce soit des communes, bon, on est sollicité parce qu'il y a un chemin à déplacer, il y a un endroit qui n'est plus accessible, il faut mettre une variante. Enfin, l'actualité est un peu chaude.
Ce qui veut dire que sur ce sentier, eh bien, on verra de moins en moins la mer dans les prochaines années, car le phénomène est étendu dans la région, c'est ce que nous dit Sylvestre Leroy, ingénieur littoral au Bureau de recherche géologique et minière de Bretagne.
Donc en Bretagne, on a à peu près 3000 km de traits de côte et on estime qu'il y a à peu près 400 à 500 km qui sont exposés à une érosion marquée. Ça représente à peu près 15 à 20% du linéaire côtier en Bretagne qui serait en phase de recul du trait de côte.
Recul marqué, ça veut dire parfois plus d'un demi-mètre par an, et encore la Bretagne est moins exposée que d'autres régions où la côte est composée essentiellement de dunes comme l'Aquitaine. Phénomène évidemment accentué par la hausse du niveau des mers due au changement climatique.
Merci Simon Le Baron. Là, la météo n'y est pour rien. La circulation des trains est interrompue en ce moment sur la ligne de train Paris-Orléans-Limoges-Toulouse en raison d'un arc électrique sur un train. Un bras articulé reliant un train à l'alimentation électrique a été endommagé. Cet incident s'est produit à hauteur de Vierzon en fin de matinée. Pour l'instant, aucun train sur cette ligne. C'est l'une des disciplines les plus spectaculaires des Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent en ce moment en Italie à Milan-Cortina. Le saut à ski, les sauts peuvent atteindre 140 mètres, un vol de 6 secondes. On va retrouver cet après-midi en haut du sautoir les sauteurs et les sauteuses à ski. Et pour nous permettre de rentrer dans leur tête, je vous propose d'écouter Nicolas Perronnet.
Valentin Foubert a 23 ans et volé avec ses immenses skis de plus en plus longtemps et son quotidien depuis qu'il en a 6. Alors la peur sur les tremplins, le grand espoir français de la discipline l'a intégré. Au fil de ses milliers de sauts, il a même appris à l'aimer.
Quand t'es en haut et que ça souffle le vent, ça fait bouger tout le tremplin, que t'es super haut, que c'est tout gelé, que t'es tout serré et que tu peux tomber à tout moment. On voit les bénévoles, ils sont pas bien. Mais nous on sourit parce qu'on se dit putain, il y a du vent, c'est cool, on va se craser au fond. Et au final c'est ça en fait la différence d'état d'esprit qu'on a entre une personne qui fait pas de saut et une personne qui fait du saut. Mais oui, on a toujours peur.
Dans le monde étrange des sauteurs à ski, on est donc habitué à passer pour des têtes brûlées, alors que c'est tout l'inverse, explique le patron du saut tricolore Étienne Gouy.
Les gens en fait ne connaissent pas du tout le saut à ski, c'est pour ça que quand ils regardent ça à la télé, ils pensent qu'on est des fous clairement, alors qu'on le pratique depuis tout petit et voilà, on monte les échelons, hein. On n'attaque pas à sauter à 140 mètres d'entrée de jeu, donc on monte les étapes et c'est un peu comme un saut en parachute ou si on fait de la Formule 1, c'est vraiment des sports extrêmes dans les sensations, mais pas du tout dangereux.
Les accidents sont d'ailleurs rarissimes, les blessures beaucoup moins fréquentes que dans d'autres disciplines des JO, comme le ski alpin ou le ski acrobatique.
Explication Nicolas Perronnet, la finale du saut à ski chez les hommes à partir de 17h. Et puis c'est un journal qui tous les jours nous raconte le sport, le journal L'Équipe. Son directeur de la rédaction, Mathias Gürtler, quitte ses fonctions un an seulement après son arrivée. Il était la cible d'une motion de défiance depuis quelques mois, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure de ce 13-14, la météo de Stéphanie Fromentin. Puis à partir de 13h30, la malbouffe et ses ravages chez les jeunes. Comment inverser la tendance? 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h45, notre feuilleton les municipales vue de Bourgogne. Laurence Perron a sillonné la Saône-et-Loire à vélo ces derniers jours et nous allons la suivre toute cette semaine. Et puis à 13h50, c'est la France. Bonjour Cécilia Arbona.
Bonjour Jérôme.
Nous restons dans ce même département pour votre histoire.
Oui, rendez-vous devant la grille rouge du cimetière de Gueugnon pour saluer la mémoire de Norbert, fossoyeur, personnage du roman Changez l'eau des fleurs.
Et juste avant 14h, une nouvelle voix pour incarner C'est une chanson. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous suppléez durant quelques jours l'ami Frédéric Pommier, que l'on embrasse. Et avec vous Julien, aujourd'hui une chanteuse.
Oui, la chanteuse Mag qui vient de sortir son premier album et qui nous raconte Hold My Hand, chanson de Lady Gaga.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Je vous l'ai déjà dit sur scène, articulé.
Chantal, je veux bien vous donner la réplique, mais bon...
Taisez-vous, arrogant, écoutez-moi.
Bah oui, mais...
Chacun, découvrez le plus grand choix, le pergola, pour un confort maximal. Pergola bioclimatique. Toits ouvrant aux lames orientales. Et voilà.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Écoutez votre musique et vos appels directement dans vos aides auditives incognito d'Afflelou grâce à leur connexion Bluetooth et à la beauté du son généré par intelligence artificielle.
Bien entendre, c'est rester connecté à ceux que vous aimez. Alain Afflelou, opticien et acousticien. Selon les modèles incognito, renseignez-vous en magasin. Dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, torréfacteurs engagés depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme.
On en parlait à l'instant, il pleut à nouveau sur l'Ouest.
Et ce qui incite Météo France à maintenir le département du Morbihan en vigilance orange en raison d'une crue importante sur l'Oust. Les pluies s'étendent cet après-midi le long d'un axe reliant la baie de Seine au golfe du Lion. Elles se renforcent même de la Bretagne au Poitou-Charentes, accompagnées d'un vent plus sensible sur le littoral aquitain et le quart nord-ouest avec quelques rafales côtières de 60-70 km par heure. L'après-midi est également plus mitigé en région PACA, partagée entre des éclaircies, des nuages et des averses, tandis que sur le nord-est, il n'y a qu'une seule tendance, la grisaille, au nord de la Seine, de la Lorraine au Val-de-Saône et puis sur le nord de l'Alsace. La neige tombe aussi sur les Pyrénées et la montagne Corse autour des 1600 mètres d'altitude.
Et les températures commencent à chuter.
Dès cet après-midi, elles peuvent plafonner autour des 5 degrés sous la grisaille tenace du nord-est. Elles se maintiennent entre 8 et 12 en général, localement 13 à 15 en Aquitaine et sur le pourtour méditerranéen. Il fera 6 degrés à Strasbourg, 10 à Saint-Étienne et Boulogne-sur-Mer, 12 à Paris, Manosque, Cherbourg ou Poitiers, jusqu'à 14 à Martigues et 16 à Saint-Raphaël.
Merci Stéphanie Fromentin.
France Inter. De 13-14. Jérôme Cadet.
Seuls 50% des élèves de 6e parviennent à courir au moins 5 minutes, c'est l'un des résultats des évaluations menées par le ministère de l'Éducation nationale en septembre dernier dans près d'un tiers des collèges publics et privés du pays. J'ajoute deux chiffres, la situation est plus alarmante chez les filles. Une sur cinq ne parvient pas à courir plus de 3 minutes et cette situation dépend des revenus de la famille. Dans les collèges défavorisés, seulement un quart des élèves obtiennent des résultats satisfaisants contre 43% dans les établissements les plus favorisés. Alors comment expliquer cette dégradation de la condition physique de nos jeunes ? Leur alimentation apporte un certain nombre de réponses. Nous en parlons avec nos invités. Dominique Adèle Cassuto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, nutritionniste, endocrinologue installé à Paris. Merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Bastien Horisberger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes influenceur, plusieurs milliers de followers, 500 000 je crois sur vos différents réseaux sociaux. Vous publiez chaque semaine des recettes de cuisine que vous présentez comme protéinées, allégées et gourmandes. Et vous venez de publier Kiff ta diète, c'est aux éditions Larousse. 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous êtes déjà nombreux à être en ligne avec nous. Vous passez également via l'onglet Réagir de l'application Radio France. Dominique Adèle Cassuto, un mot de réaction d'abord aux chiffres que je viens de donner. Ils sont le signe d'une génération qui se nourrit de plus en plus mal?
Non, moi je pense que c'est pas forcément la même histoire. En fait, c'est probablement la sédentarité plutôt que
la nourriture.
Que la nourriture, ça va avec, hein. En fait, hein, il y a la sédentarité, l'exercice physique, l'alimentation, mais je faut pas généraliser. Je pense que c'est pas que ça. Ce qui est inquiétant, c'est que les filles, enfin bon, voilà, les filles, peut-être qu'elles sont moins stimulées pour bouger. Et à la sédentarité, c'est très important ça parce que on confond souvent sédentarité à activité physique. Hein. Il y a les deux. Hein.
C'est quoi la différence ?
La sédentarité, c'est le temps passé assis, le temps passé sans bouger et l'activité physique. On peut être très sédentaire.
Je peux sortir, me balader, mais pas forcément faire de sport.
Voilà, exactement. Donc en fait, l'activité, on peut être joueur de tennis une fois par semaine et très sédentaire, par exemple.
Les chiffres de l'obésité, eux, vont dans le même sens que les chiffres que j'ai donnés là sur l'activité physique.
Effectivement, les jeunes, les 15-25 sont quand même les plus en risque. Ouais,
et vous le constatez, vous, ce changement de physionomie ?
Alors moi, c'est un peu biaisé parce que je suis spécialiste de ça. Donc forcément, j'ai que des gens qui viennent me voir ou qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui sont plutôt dans l'anorexie, dans la boulimie et qui ne sont pas forcément en surpoids. Et évidemment, des gens qui sont en obésité. Donc moi je ne peux pas le... Moi, c'est ma clientèle, donc je ne peux pas dire ça. Mais en même temps, c'est vrai que les chiffres sont alarmants. Et surtout, ce qui est alarmant, c'est le gradient CSP, enfin des gradients financiers, enfin de socioculturels, en fait.
C'est-à-dire que moins on a d'argent, en gros, plus on est exposé à la junk food.
J'aime jamais les généralités, parce que vous avez des gens qui viennent, qui ont une alimentation à la maison qui est tout à fait bien, avec des légumes, par exemple dans certaines cultures, on mange beaucoup de légumes, hein, donc, et c'est pas forcément parce qu'on a moins d'argent, enfin je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est difficile à faire des généralités, j'aime jamais les généralités, mais effectivement...
Non mais il y a quand même des liens, on a diffusé un reportage la semaine dernière dans les quartiers nord de Marseille, où il y avait plus de trois quarts des établissements de restauration qui étaient des fast-food.
Alors voilà.
La commune d'Argenteuil aussi, et donc, on sait que ce sont des communes qui sont parmi les plus pauvres de France.
Alors effectivement, mais l'augmentation des fast-food, c'est pas forcément que dans les quartiers défavorisés, parce que quand vous allez dans Paris, dans certains quartiers bobos, les restaurants, et j'ai un peu travaillé pour aujourd'hui là, les restaurants qui ont donné la place à beaucoup de restauration rapide. Alors c'est pas forcément mauvais, parce que c'est souvent monoproduit. Hein, on va avoir un restaurant de poulet, un restaurant de riz, un restaurant de... Donc, par contre, ce qui est embêtant, c'est la fréquence. Hein, la fréquence.
Y aller de temps en temps, c'est toujours pareil, on se répète, mais c'est la vérité. De temps en temps, ça n'est pas problématique. Quand ça devient, et je renvoie à ce reportage de la semaine dernière, certains ados nous disaient, moi j'y vais tous les soirs, ou j'y vais 3-4 fois par semaine. Là, ça pose problème. Je voudrais qu'on donne la parole à Bastien Horisberger, qui nous attend en Suisse. Je sais pas si j'ai précisé que vous êtes suisse, Bastien Horisberger. Vous-même, à un moment, vous êtes retrouvé dans cette situation de consommer beaucoup de ce qu'on appelle la junk food. Vous avez constaté l'impact sur votre physique, sur votre corps?
C'est clair, j'étais bien grassouillé, comme on dit. Et j'avais conscience déjà de ce terme calories. J'étais un peu déjà formé sur le domaine, je m'étais intéressé à la nutrition. Et donc, je savais très bien que ce genre de choix alimentaire que je faisais et ma sédentarité, donc le fait d'avoir un job assis, d'être souvent assis, de ne pas faire du sport, c'est ça qui crée ce surplus calorique et donc cette prise de graisse sur le long terme.
On sait, mais on y va quand même. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Eh ben, c'est le triangle parfait. Souvent, les fast-foods ont ce triangle parfait entre le salé, le sucré, le gras. On a cette satisfaction du goût qui est intense, du gras en bouche. Et notre corps et notre cerveau en redemandent toujours plus.
Donc, c'était très addictif pour vous. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit « il faut que j'arrête là, il faut que je change de régime alimentaire
» Pour mon mariage.
Ouais.
Donc je me suis marié à l'âge de 21 ans, il y a 10 ans, et j'avais envie d'être beau dans mon costume et j'avais envie d'être beau pour ma femme, alors je me suis dit allez, on y va, on va perdre tout ce poids, et là j'ai fait toutes les erreurs possibles, régime ultra restrictif, beaucoup de culpabilité dès qu'il y avait un craquage, mais j'ai perdu mon poids malgré tout, que j'ai repris quelques années plus tard avec mes premiers enfants. Et j'ai pu perdre ce poids une deuxième fois, cette fois avec une autre approche, moins restrictive, un peu plus positive et plus intelligente, tout en me formant dans le domaine du sport et de la nutrition aussi en parallèle.
On va venir justement aux règles que vous êtes fixées et à cette nouvelle manière de vous alimenter dans un instant. Je voudrais qu'on accueille Pascal, qui nous appelle de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Vous travaillez dans des cantines. Vous pouvez nous raconter ce que vous constatez avec les enfants.
Bon, j'ai travaillé pour des cantines
D'accord.
pendant longtemps.
Ouais.
Et depuis 7 ans à peu près, je trouve que le rôle de l'éducation nationale a été abandonné à une privatisation des cantines dans tout le département des Yvelines. Et donc, c'est une autre logique qui s'est mise en place, qui est une logique de profit et de forcément, alors que nous, on avait quand même une logique de service public. Et effectivement, j'ai pu constater que pour faire plaisir aux élèves, cette entreprise faisait beaucoup de frites, de hamburgers, de poissons panés, de hot dogs, enfin des choses pas très chères et qui plaisent aux enfants. Et effectivement, je trouve que l'équilibre alimentaire dans les collèges, c'est important que l'éducation nationale reprenne la main, je pense.
Merci pour ce témoignage, Pascal Dominique Adel Cassuto. Est-ce que le problème, il vient parfois des cantines et de ce qui est servi aux jeunes? Est-ce que c'est ce qu'ils peuvent vous dire quand ils viennent vous voir à votre cabinet?
Alors, c'est vrai que... Il est démontré que quand l'alimentation, la cuisine est faite sur place, les enfants mangent plus, en fait, mangent plus et ne laissent pas de côté les choses. Parce que quand c'est cuisiné, quand c'est bon, quand on montre que c'est fait, que les dames de cantine, elles sont là, qu'elles sont... Ça a toujours été, et ça, c'est depuis longtemps, et c'est pas récent. C'est pas récent, ça, cette histoire. Après, moi, je pense que depuis l'époque du Covid aussi, il y a eu beaucoup... on a montré qu'on pouvait commander. Donc les parents commandent beaucoup. Et donc, comme les parents commandent beaucoup, les enfants...
Les imitent.
Et donc, c'est les mêmes produits, en fait. C'est les mêmes produits qu'on trouve dans les fast-foods que ce que les parents commandent. Donc, en fait, il y a aussi cette histoire de modèle, hein. Moi, je pense que l'éducation alimentaire, elle se fait pas qu'à l'école, elle se fait partout. Elle se fait aussi avec les parents. Mais les parents, des fois, ils sont débordés. Et puis, il y a aussi le problème financier. Parce que pendant dans les cantines, ils se débrouillent aussi, ils font ce qu'ils peuvent. Mais il y a plein de cantines qui ont montré, il y a plein de projets qui montrent que quand on fait l'effort d'avoir un cuisinier sur place, finalement, parfois, ça devient moins cher. Et aussi, il y a beaucoup de cantines qui font ça, puis d'autres qui peuvent pas le faire. Mais c'est quand même mieux. Et il y a moins de déchets, il y a moins de gaspillage. Parce que moi, ce que je me rends compte souvent, c'est que les petits patients qui ont des problèmes de surpoids, des fois, ils mangent pas à la cantine. Ils mangent pas parce que c'est pas bon. Donc, du coup, ils ont des gros goûters.
Ils se rattrapent plus tard, en quelque sorte.
Ouais. Et les parents, parfois, ils découvrent dans ma consultation que finalement,
ils n'ont pas mangé à la cantine.
Donc, voyez, tout ça, c'est pas. Il ne faut pas généraliser.
Ouais. Est-ce que certains découvrent, Dominique Adel Cassuto, que parfois leurs enfants, je pense au lycée notamment, ne vont plus à la cantine et vont manger dehors? Alors, il y a ça aussi, ce phénomène-là.
Ça, c'est vrai qu'il y a aussi qu'à la cantine, on fait la queue longtemps. Quand on arrive, parfois, il n'y a plus rien. Enfin, vous voyez ce que j'ai... Donc, c'est souvent ça qu'on les entend dire. Hein. Et puis, en seconde, quand t'es à la cantine depuis la crèche, je pense qu'il y en a marre, quoi.
Ouais.
Donc, ils vont manger dehors. Ils ont un budget qui est très faible. Donc, les parents n'ont pas forcément l'argent pour donner 10 euros pour aller manger tous les jours. Donc, c'est pas possible. Donc, forcément, c'est l'offre répond à la demande.
Qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant qui dit « Mais moi, je veux plus aller à la cantine. Donne-moi 5 euros, 6 euros. Je vais aller acheter un truc vite fait. On va aller manger... sur les marches de la mairie ou de l'église avec les copains ?
Alors, la personne qui est de l'autre côté de la ligne apprend à faire
Bastien,
des recettes
ouais.
de Bastien, apprend à faire des cuisines. Là, évidemment, la cuisine, c'est évidemment un outil qu'on peut apporter si on va manger dans le parc. On peut s'apporter un Tupperware et apporter des choses qu'on a fait à la maison. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et ça, je pense que c'est très important de pouvoir donner cette habitude-là aux enfants. Mais ils n'ont pas forcément envie. Ils vont avec les copains, c'est moins cher. Une fois de temps en temps, c'est possible, mais après, ils n'ont pas le temps. Enfin bon, c'est très, très difficile et je passe beaucoup de temps à discuter de ça avec mes patients.
Bastien Riesberger, vous communiquez sur vos réseaux sociaux sur des recettes que vous présentez comme allégées. La couverture du livre, c'est quand même un bon gros burger. Alors, qu'est-ce qu'il a de différent avec les autres, Bastien Riesberger?
Exactement, on aime un peu la provoque, là. On a voulu jouer sur le côté provoque avec la rousse. C'était tout simplement pour montrer qu'en fait, on peut, si on cuisine soi-même certains aliments, on peut faire des trucs très gourmands, mais réduire les calories si on fait des choix intelligents.
Par exemple ?
Donc, par exemple, sur un double smash burger, comme sur la couverture, qui est souvent cuit dans beaucoup de matières grasses, c'est souvent des viandes très grasses, à plus de 35% de matières grasses qui sont sélectionnées. Là, on choisit une viande maigre, donc à 5% de matières grasses, on cuit avec moins d'huile, on utilise un fromage un peu moins gras, les sauces, on les coupe avec du céré maigre. Ça, c'est en Suisse du fromage blanc 0% pour les Français. Et avec ça, on réduit les calories de quasi 500 calories. Donc, on peut en manger encore plus, ça veut dire, pour le même nombre de calories.
Oui, pas forcément non plus. Il faut aussi se restreindre. Dominique Adel Cassuto, il y a aussi le poids de la pub, du marketing sur ces jeunes.
Bien sûr. Et puis bon, des réseaux sociaux qui disent, qui appellent à montrer certaines chaînes, certains aliments. Mais après, il faut qu'ils mangent aussi. Il faut que savoir qu'on dit d'un adolescent, vaut mieux l'avoir en photo qu'en pension. Hein. Ça, les calories, moi, faut pas penser qu'aux calories. Au contraire, ils ont besoin de manger.
Non, mais le propos n'est pas de dire qu'il faut plus manger.
C'est surtout ça.
Le propos, c'est de dire qu'il faut manger.
Quand ils sont en pleine croissance.
Et comment amener les jeunes dans ce chemin-là quand ils ont énormément de tentations?
quand ils sont en pleine croissance, ouais, quand ils sont en pleine croissance, ils ont besoin de manger. Donc, faut pas. Bon, un nombre de calories est important quand même. Hein.
Guillaume est avec nous. Bonjour, Guillaume.
Oui, bonjour.
D'où nous appelez-vous ?
Du Lot du Ravel.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui. Alors, ma suggestion, c'était est-ce qu'il serait pas quand même temps de moduler les taux de TVA en fonction de critères qui sont sanitaires, durables et sociaux aussi, c'est-à-dire qu'un KFC, ou pour ne pas les nommer, ou un McDo soit imposé à 20% de TVA, que les produits qui sont vendus là soient à 20% et que dans les produits, enfin tout ce qui est de bonne qualité, soit à 5%. C'est valable aussi bien pour la nourriture en grand magasin que pour la restauration.
Merci Guillaume pour cette suggestion, Dominique Adel Casuto. Qu'on soit KFC ou qu'on vende des salades équilibrées, on paye la même TVA. Est-ce que c'est normal?
Ouais, j'ai pas d'avis là-dessus. Je pense que c'est toujours difficile de parler de taxes. Par exemple, dans certains supermarchés, il y a des bars à salades, par exemple, qui sont tout à fait bien et qu'on peut tout à fait peut-être mettre des affiches ou des affichettes pour expliquer ce qu'il faudrait faire, par exemple.
Vous pensez que ça suffit ?
Bah ça peut. Par contre, dans certains supermarchés, ils mettent les légumes en premier, par exemple, vous voyez, pour les achats. Enfin, je veux dire, il y a des façons de faire acheter des choses.
Pour l'instant, manifestement, ça ne fonctionne pas.
Ça peut. Pour les légumes, quand ils sont au début, oui.
Bastien Henri Berger, il nous reste une minute. Je suis assez curieux parce que vous avez 3 enfants et j'aimerais savoir comment vous y prenez pour justement les sensibiliser et leur faire manger de tout.
Alors, je suis pas un très bon exemple. J'essaie de faire de mon mieux, mais encore hier, ils n'ont pas mangé un seul fruit et légume de la journée et je me sentais très coupable. Je pense que j'aimerais avoir un discours déculpabilisant par rapport à ça et pour les gens qui nous écoutent, que il faut pas laisser le bien venir l'ennemi du mieux. Donc, ce qui compte, c'est d'essayer de faire mieux chaque jour, d'introduire régulièrement des fruits, des légumes. Si vous n'êtes pas dans les 5 portions de fruits et légumes tous les jours, 7 jours sur 7, c'est pas grave. Il faut qu'il y ait des fruits, il faut qu'il y ait des légumes, il faut leur faire découvrir ça et faire de notre mieux, mais garder ça toujours en tête, mais ne pas se flageller et se punir quand c'est pas une bonne journée.
Très rapidement, mieux le lendemain. Le regard du médecin sur ce qui vient d'être dit, oui, Dominique Adel Casuto.
L'équilibre alimentaire, c'est pas sur qu'un seul repas, il se fait sur la journée, il se fait sur la semaine, il se fait sur la vie, effectivement, il faut que faire une moyenne.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui et pour répondre aux auditeurs du 13-14, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, notre feuilleton que nous consacrons cette semaine aux élections municipales. Nous sillonnons la Bourgogne, la région de Mâcon, avec notre reporter Laurence Perron qui est à vélo. Première étape pour Laurence, Fleurville, 495 habitants. La commune s'est déchirée pendant des années autour de la rénovation de son pont qui passe au-dessus de la Saône. Et ici, chacun a un avis sur ce fameux pont.
C'est une association qui protège les chauves-souris, qui était de replonge, mais l'association a été dissoute parce que ça a fait beaucoup de problèmes en fait, et je pense qu'ils se sont reçus beaucoup de haine.
Et vous êtes plutôt pour le pont ?
Ah oui, moi j'habite de l'autre côté, donc ça m'éviterait de faire 20 minutes de plus, et puis même question écologie aussi, je pense que c'est plus simple pour tout le monde. Quand il est fermé, ça réduit quand même pas mal notre clientèle. Je dirais bien 40% de notre clientèle, ouais. Mais ça impacte pas que nous. Je sais que de l'autre côté aussi, ça les impacte beaucoup.
Votre prénom ?
Mila.
Et vous travaillez à la boulangerie, c'est ça ?
Exactement.
Ça, c'est le commerce principal de Fleurville, hein ?
Oui. Après, il y a la fleuriste et les saveurs mâconnaises. Il y a Terre de Beauté derrière l'Institut de Beauté. Et après, il y a un restaurant, le restaurant de la gare et la pharmacie. Tout est regroupé là, en fait. Il y a la poste un peu plus loin, mais c'est un petit village.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour.
Bonjour. Je n'ai pas attaché mon vélo, ça craint rien.
Donc, Patricia Clément, je suis maire de Fleurville. C'est mon 4e mandat.
Allô ?
Oui, oui. On va venir visiter. Bah, écoutez, moi j'ai une permanence le samedi matin. Si vous voulez venir samedi matin, ça peut aller. Ou alors, si vous pouvez pas, sinon le secrétariat est ouvert le jeudi après-midi et le vendredi toute la journée, jusqu'à 7h.
Alors, cette histoire du pont de Fleurville.
Alors, c'est une histoire ancienne. Vous savez, c'est un pont qui est très ancien. J'ai refait un peu l'historique. En 1834, on a construit un pont suspendu qui a été mis en service en 1835. Au fil du temps, fin du siècle, dans les années 1898 à peu près, ce pont a été remplacé par un vrai pont, hein, qui a été construit d'ailleurs au Creusot sur un modèle de plan, vous savez, de pont style Eiffel avec tout en ferraille. Voilà, hein. Ce pont a été mis en service.
Maître Fleurville, bonjour.
Bonjour, c'est à nouveau la même personne, j'excuse de vous déranger.
Oui.
C'est par rapport à l'occasion de Pâques. Du coup, vous avez dit vendredi toute la journée.
Vendredi toute la journée, elle est là de 9h à midi et de 14h à 17h.
D'accord, ok.
Voilà, de rien, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Voilà, c'est ça les petites communes.
On n'a pas d'autres services, donc on fait tout. Oui, donc ce pont a été détruit en 1944 pendant la guerre. Il a été reconstruit ensuite. Et donc ce pont, il a fait l'objet au fil du temps de différentes opérations de maintenance, mais qui commençaient à coûter très cher. Au bout d'un moment, les conseils départementaux ont décidé de construire un nouveau pont. Et donc, il y a eu quelques personnes qui sont venues voir le commissaire enquêteur pour dire qu'ils n'étaient pas favorables à la construction d'un nouveau pont. Ils étaient plutôt favorables à la réparation du pont existant. Et en octobre 2021, il y a eu une action de l'association Bien Vivre à Replonge qui a saisi le tribunal. Le tribunal administratif de Lyon, saisi par cette association, a suspendu l'arrêté préfectoral qui avait autorisé les travaux. Travaux qui avaient commencé d'ailleurs. Alors là, c'était vraiment un coup de massue. Et puis, en novembre 2025, le Conseil d'État a validé l'autorisation de construire. Ouais, j'assure, j'en ai presque pleuré tellement c'était une excellente nouvelle. On a perdu 4 ans de procédure et on a perdu, au dire du président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, plus de 5 millions d'euros, quoi.
Une semaine dans leur vie en Bourgogne. La suite demain.
France Inter. Le 13-14.
Eh bien, restons-y en Bourgogne, dans C'est la France. Le lundi 13h50, Cécilia Arbona nous parle d'une personnalité, d'un lieu dans l'actualité. Et aujourd'hui, Cécilia, le fossoyeur de Guignon, devenu personnage de roman.
Il s'appelait Norbert Jolivet. Il est décédé la semaine dernière à 74 ans. En 2018, sa nature débonnaire a accompagné et participé sans doute à un succès de librairie, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, vendu à 850 000 exemplaires dans sa ville de Guignon. Norbert, c'était juste un prénom et une personnalité appréciée. Il travaillait dans mon équipe, se souvient Jackie Michaud, ancien directeur des services techniques. Quand je lui ai dit « tu vas t'occuper des enterrements », il a dit ok, il a assumé sa mission avec sérieux et entrain. D'autres agents municipaux auraient demandé à changer de service, mais pas Norbert. Fallait quand même avoir le cœur bien accroché pour s'occuper de tout ça.
Norbert Jolivet était connu, Cécilia, pour être le bout en train local.
Quand on partageait un repas avec lui, on ne mangeait pas grand-chose, tellement il nous faisait rire, se souvient Jackie. Demandez donc à ma femme. Employée de mairie, elle aussi, Isabelle, évoque un comique qui embarquait des tablées entières dans des fous rires. Les 4 enfants de Norbert, Géraldine, Julie, Barbara et Mike, rappellent sa capacité à trouver de la drôlerie dans toutes les épreuves de la vie, sans jamais se moquer ni se montrer désobligeant. Papa était pudique, confie son fils. Il nous protégeait, mais parfois il rentrait à la maison en disant simplement « aujourd'hui c'était difficile ». Et le plus dur, c'est quand il était de relevage. Il devait libérer une tombe, exhumer un corps, et là, on voyait bien que ça le chamboulait. Ces jours-là, Norbert Jolivet allait prendre un café chez Claudette, la gardienne du cimetière, sous la plume de Valérie Perrin. Claudette, elle est devenue Violette Toussaint, l'héroïne du film. L'actrice Leïla Bekti va l'interpréter au cinéma le 9 décembre.
Valérie Perrin, qui précisément a grandi à Guignon.
Et qui a appris le même jour le décès de Norbert et la date de sortie de l'adaptation de son livre au cinéma. Elle raconte ceci. Je suis tombée sous le charme de Norbert. Il me faisait penser à Georges Brassens. On se retrouvait dans des bistrots, on buvait du vin blanc, il me racontait sa vie. Je l'enregistrais avec mon téléphone portable. Captivé par ses récits, Norbert a donné du souffle à mon roman. À la page 21 dans l'édition de poche que j'ai chez moi, la romancière présente ainsi Nono au lecteur. Nono, c'est un homme droit qui a la joie de vivre dans le sang. tout l'amuse et il ne dit jamais non. Dans la vraie vie, Norbert Jolivet aimait les plaisirs simples, la pêche, la bonne bouffe, les moteurs. Il s'était acheté une Harley Davidson et une vieille Porsche bleue avant-hier pour ses obsèques. Du ukulélé et de la flûte de Pan ont résonné dans l'église de Guignon. Comme une pirouette au destin, Norbert Jolivet, le fossoyeur, a choisi d'être incinéré. L'urne qui contient ses cendres est scellée sur la tombe de ses parents dans le carré des ifs.
Norbert Jolivet par Cécilia Arbona dans C'est la France. Changer l'eau des fleurs pour ceux qui veulent retrouver ce personnage. Ce roman de Valérie Perrin de C'est la France. Ah, c'est une chanson, Julien Baldacchino. C'est aujourd'hui une chanteuse qui est à votre micro. Le public l'a découverte dans l'opéra rock Starmania.
Elle s'appelle Mag. Elle incarnait le rôle de Stella Spotlight dans la mise en scène du spectacle, par Thomas Joly. Et elle a également été demi-finaliste l'an dernier de l'émission The Voice. Elle vient de sortir son premier album, Mon Flow, c'est son titre. Et la chanson qui l'a marquée durablement, elle est de Lady Gaga. Elle s'appelle Hold My Hand.
Alors la première fois où je l'ai entendue, c'était dans le film Top Gun, au cinéma. Et puis la fois où elle m'a vraiment marquée et où je l'ai redécouverte, c'était dans un moment un peu particulier. Il se trouve que j'ai eu quelques soucis de santé dus à une maladie qui s'appelle l'endométriose thoracique. J'ai dû me faire opérer du poumon, du diaphragme. J'étais en pleine tournée de Starmania à l'époque. Et la veille de mon opération, mon meilleur ami m'envoie Hold My Hand de Lady Gaga, version des Oscars, version live. Et je redécouvre cette chanson à ce moment-là et je prends conscience de toutes les paroles. Et puis j'ai la peur à ce moment-là de plus pouvoir chanter à pleine voix après l'opération. Donc voilà, j'écoute cette chanson et j'ai l'impression qu'elle me parle.
Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray.
Tiens ma main, ça va bien se passer en fait. Bah voilà. Et le lendemain matin, quand je me suis fait opérer, on m'a demandé si je voulais écouter de la musique. Et j'ai dit oui, je voudrais écouter Hold My Hand de Lady Gaga, version des Oscars. Et donc je me suis endormie là-dessus. Et je me suis réveillée, tout s'est bien passé, l'opération s'est bien passée. J'ai refait une récidive au bout d'un an, donc je me suis faite réopérer. J'ai à nouveau demandé d'écouter cette chanson quand on m'a réopérée la deuxième fois. Elle m'a porté chance à nouveau, ça s'est à nouveau bien passé. J'ai remis un an à récupérer mes capacités totales pour pouvoir rechanter cette chanson. Et la première fois que je l'ai rechantée, c'était sur le plateau de The Voice pour l'audition, les auditions à l'aveugle.
Et là aussi,
elle m'a porté chance. Voilà. Ouais.
Ce statut d'une chanson comme Gris-Gris, c'est quelque chose à laquelle vous croyiez avant ou ça s'est un peu imposé comme ça avec cette chanson ?
Alors moi, je crois beaucoup au Gris-Gris en général, mais cette chanson, elle s'est un peu imposée par son message. Moi, c'est une chanson qui me donne de la force. Souvent, en fait, des fois, voilà, selon les moments de la vie, on écoute une chanson, on ne prête pas vraiment attention aux paroles. Et puis, on la réentend dans un moment de notre vie où d'un seul coup ça veut dire quelque chose et là par contre bam, ça touche en plein cœur et ça devient une chanson qui fait partie de notre vie quoi.
Cette chanson, Julien, Lady Gaga l'a voulu, je cite, comme une lettre d'amour au monde après des temps difficiles.
Et cet espoir-là, Mag, elle a envie de le transmettre à son tour.
La deuxième fois, j'ai eu une personne, une fan de Starmania, à la base, qui m'a contactée sur les réseaux, qui se trouvait avoir la même maladie que moi, et qui était passée par tout ce par quoi je suis passée. Et donc, elle m'a dit, t'inquiète pas, ça va aller, ça va bien se passer. Et je sais que sur les plateaux des Blinds, quand j'ai dit cette phrase-là, c'est à elle que j'ai pensé.
Et ça, c'est quelque chose que vous avez eu envie aussi de porter avec vos propres chansons ensuite?
Oui, bah notamment dans l'album qui vient de sortir, j'ai une chanson qui s'appelle « Mon corps », qui est vraiment une chanson où j'ai décidé de me réconcilier avec ce corps justement qui m'a donné du fil à retordre à un moment donné.
Quand on a cette peur de ne plus pouvoir chanter, c'est juste perdre un instrument de travail ou c'est plus que ça?
Ah, c'est plus que ça. J'ai pas le souvenir d'avoir commencé à chanter et du coup, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie. Quand je chante à plein poumon, y a ce moment où j'ai l'impression que j'inspire, que d'un seul coup, je suis vivante, je me sens vivante. C'est ma manière aussi de m'exprimer, c'est ma manière de hurler quand j'ai besoin de hurler. Et du coup, de plus avoir ça, c'est comme si on m'enlevait vraiment une partie de moi, quoi.
All My Hand, Lady Gaga, le choix de la chanteuse Mag.
Et son nouvel album s'appelle Mon Flow, il est disponible depuis la semaine dernière sur les plateformes de streaming. On l'a écouté et on a aimé.
Merci Julien Baldacchino et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est le programme?
Eh bien nous allons parler avec nos invités de soulèvement.
Dans la Terre au carré, à tout de suite.